êtes sur le point de suivre Lève-toi et brille, un enseignement du Centre Jésus pour réussir, Sise à Kounou, au bord des pavés, derrière le stade de l'Amitié, à côté du complexe Félix Houphouët-Boigny. Diffusé tous les jeudis à partir de 22h30 et tous les dimanches à partir de 8h00. Vous pouvez aussi obtenir copie de cette émission au www.jesuspourreussir.org ou nous appeler au 229 61 44 44. Vous êtes bienvenus à nos séminaires interactifs tous les mercredis et jeudis de 19h à 21h, nos cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de la parole de Dieu, la meilleure arme offensive et défensive que Dieu nous ait donnée ont lieu les dimanches de 9h à 12h le matin et de 18h à 21h les soirs. Ils transformeront rapidement votre vie si vous vous donnez la peine de les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Je vous souhaite une joyeuse fête de Pentecôte. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La fête de la Pentecôte est après la Pâque ou avec la Pâque, pour être plus précis, ce qu'il y a de plus important pour le chrétien. À la Pâque, nous vivons la croix, nous vivons la puissance par laquelle Dieu a vaincu le monde, Dieu a vaincu le diable, Dieu a vaincu nos malédictions. Mais une fois que Christ a vaincu la malédiction, il a juste détruit le mal, mais il n'a pas encore donné la vie. Pour que nous vivions de la vie que Dieu veut que nous ayons, il faut que la vie soit en nous. Il faut que le Saint-Esprit vienne en nous. Et c'est ce que Christ accomplit à la Pentecôte. La Pentecôte avait toujours été célébrée par les Juifs comme étant la fête où ils célébraient le moment où Moïse a reçu la loi de Dieu. Dieu a donc choisi le jour où on fête la réception de la loi pour nous donner le Saint-Esprit. Parce que justement maintenant, nous ne sommes plus conduits par la loi, mais nous sommes conduits par l'Esprit. Cela ne veut pas dire, comme nous l'avons déjà vu ici, que la loi est abolie. Jésus a été clair, rien n'abolira jamais la loi. Et même si le ciel et la terre passaient, la loi ne passera pas. Jésus est donc venu non pas abolir, mais accomplir la loi. La grâce de Dieu avec le Saint-Esprit, ce n'est pas pour ne pas avoir besoin de la loi. C'est pour pouvoir accomplir la loi. Nous devons comprendre très bien ce dont il s'agit. La loi nous dit ce qu'il faut faire pour vivre et ce qu'il faut éviter de faire pour ne pas mourir. Elle nous révèle dans quoi il y a la vie et dans quoi il y a la mort. Le problème, c'est que jusqu'à l'arrivée de Jésus, il a été clair que de savoir ce qu'il faut faire pour avoir la vie n'était pas suffisant pour avoir la vie. La preuve, Paul nous rappelle que nous n'arrivons pas à faire le bien que nous savons qu'il faut faire. Et nous n'arrivons pas à éviter de faire le mal que nous savons bien être mal. Donc la loi a beau nous dire d'avance ce qui va nous tuer, ce qui va nous vivre, l'homme a constamment fait ce qui va le tuer et n'a jamais pu faire ce qui va le faire vivre.
L'homme aussi a dit et donne à mort.
Nous n'arrivions pas à le faire. Nous n'arrivions pas à le faire parce que nous ne sommes pas libres, nous n'étions pas libres. Nous étions sous l'autorité de Satan du mal. Depuis le jardin d'Éden, nous étions comme une voiture dont Satan avait pris le volant. L'homme avait été créé avec l'Esprit de Dieu qui le conduisait. Lors du péché, l'Esprit de Dieu s'est retiré. L'homme a commencé à être conduit par l'Esprit du mal. Donc, si tu es conduit par le chauffeur qui est Satan, tu ne peux que faire la volonté de Satan. Détruire la voiture ne changera rien, le chauffeur prendra une autre voiture. C'est pour ça que sans la Pentecôte, le chrétien, même s'il sait ce qui est bien, ne peut pas vivre ce qui est bien.
À
la croix, Christ a vaincu le mauvais chauffeur.
À
la Pentecôte, le bon chauffeur est arrivé. C'est ce bon chauffeur qui vient redémarrer la voiture et qui peut conduire la voiture dans la vie, dans la prospérité, dans la santé, dans la joie. Avant, quoi que tu aies envie de faire, Satan te faisait faire le mal. Parce que c'était l'esprit de Satan, l'esprit qui vient d'Adam qui nous conduisait. Mais à partir de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur les chrétiens et de l'intérieur des chrétiens, c'est maintenant le Saint-Esprit qui les conduit. C'est lui qui les amène là où il faut et qui les amène donc dans la vie éternelle. Cela veut dire qu'il n'y a pas de chrétien sans Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a fondé l'Église. Il y avait les disciples de Jésus, il y avait les apôtres. Ils étaient réunis, ils avaient peur. Et Jésus lui-même leur avait dit d'attendre. D'aller à Jérusalem et d'attendre qu'il aille leur envoyer le Saint-Esprit avec toute sa puissance qui surviendra sur eux. Et que quand cette puissance-là viendra sur eux, ils pourront sortir et aller témoigner de lui. Ils pourront sortir et aller vivre la vie de Dieu. Ils pourront sortir et aller opérationnaliser le royaume de Dieu. Mais Jésus lui-même leur a dit, sans le Saint-Esprit ne bougez pas. Mais parce que vous ne pouvez tout simplement pas bouger. Mais regardez Pierre. Mais avant Jésus, plutôt avant la Pentecôte, il avait beau passer 3 ans avec Jésus. Il avait été enseigné. Il a été expérimenté. Jésus a fait des miracles devant lui. Ils ont réveillé Lazare ensemble. Il était à la transfiguration. Il a marché sur les eaux avec Jésus. Ça ne l'a pas empêché quand une femme lui a demandé s'il connaissait Jésus. Il a dit que je ne le connais pas. On lui a fait marcher sur les eaux. Hein. Il a vu Jésus calmer la tempête. Il a vu Jésus multiplier le pain, le vin. Et il a vu Jésus transformer l'eau en vin. Il a vu Jésus maudire le figuier. Réveille les morts. Guérir les paralytiques. Chasser les démons du fou de Gadara. Pierre a vu tout ça. Mais il n'était pas un chrétien. C'était un peureux. C'était un lâche. C'était un orgueilleux. Pressé de savoir qui est le plus grand dans l'église. Il était comme les chrétiens d'aujourd'hui. Sans le Saint-Esprit, Pierre n'était en rien quelqu'un de recommandable. Et pourtant, il était l'un des plus proches du maître. Le fait de venir à l'église ne fait pas de quelqu'un chrétien. Le fait de se donner des gros titres pompeux ne fait pas de vous un chrétien. L'église est malade aujourd'hui parce qu'elle est remplie à 80% de gens qui ne sont pas des chrétiens. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est mort et dont le corps n'est en vie que parce qu'il est désormais utilisé par Christ. C'est quelqu'un dont la volonté est morte. Quelqu'un dont le moi est mort. Quelqu'un qui ne vit plus par lui-même. Mais quelqu'un qui n'est devenu qu'une marionnette du Saint-Esprit. Ce n'est plus lui qui vit. C'est Christ qui vit en lui. Et parce que Christ vit en lui, il est un Christ en mouvement. Donc l'ensemble des gens qui sont un Christ en mouvement forment l'église de Christ. L'ensemble des gens qui sont un Christ en mouvement forment le corps de Christ. Il y a des gens qu'on trouve dans le corps de Christ aujourd'hui qui ne sont en rien corps de Christ parce qu'il n'y a rien de Christ en eux. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Il y a des pasteurs dans ce pays qui enseignent que le Saint-Esprit n'existe pas. Mais si le Saint-Esprit n'existe pas, d'où vient l'église? Si le Saint-Esprit n'existe pas, comment l'église va vivre? Il y a des grandes églises qui ne croient pas au Saint-Esprit, qui ne croient plus au miracle, qui ne croient plus parler en langue, qui ne croient plus aux révélations, qui ne croient plus aux visions. Mais pourquoi ça s'appelle l'église? Ils n'ont qu'à se trouver un autre nom. Des églises mortes. Quand quelqu'un reçoit une révélation, on appelle la ville aux sept collines pour demander si c'est possible que Dieu parle. Mais si quelqu'un ne croit pas au Saint-Esprit, il n'est pas un chrétien. Un chrétien, c'est un corps conduit par l'Esprit de Christ. Et ça s'est passé à la Pentecôte. Et quand vous regardez les disciples, avant la Pentecôte, ils avaient peur. Quand ils ont vu Jésus partir, ils avaient peur. Ils se sont enfermés au cénacle avec Marie. Ils priaient en attendant la puissance que Jésus a promis. Ils n'étaient pas des chrétiens jusqu'à ce que cette puissance vienne. Aucun d'entre eux n'a jamais prêché jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Ils ne savaient même pas quoi prêcher alors que le Saint-Esprit vienne. C'est quand le Saint-Esprit est arrivé que la parole de Dieu nous dit que leurs intelligences sont comprises. Ils ont maintenant compris la parole de Dieu. Ils ont eu la conviction. Ils ont eu le zèle. Ils ont eu la force. Vous pourrez le voir dans Acte 2. Et c'est maintenant qu'ils sont sortis. Pierre, qui devant des femmes avait fui, il se lève maintenant. Il se met devant 3000 personnes. Et il enseigne qui est Jésus-Christ. Ce jour-là, 3000 personnes sont nées de nouveau. Et se sont ajoutées à l'église. Parce que quand ils ont écouté la parole de Dieu, ils ont cru dans leur cœur que l'œuvre de la croix était vraie. Que Jésus était Seigneur, que Jésus était souffert. Ils l'ont confessé de la bouche. Donc ils sont nés de nouveau. Naître de nouveau, c'est que le Saint-Esprit est rentré en eux. Dès que le Saint-Esprit rentre en eux, on les baptise et on les ajoute à l'église. Il y a plein de gens qui fréquentent l'église sans être de l'église. Il y a plein de gens qui fréquentent l'église qui n'ont jamais compris l'œuvre de la croix. Ils savent juste qu'on a crucifié Jésus. Ils n'ont jamais été baptisés. Alors que Jésus dit que si quelqu'un croit confesse et est baptisé, il sera sauvé. On prend n'importe qui, on l'a rempli les églises. On dit voilà, nous avons des chrétiens. Conclusion, l'église ne ressemble plus à l'église. Quand vous lisez dans les actes des apôtres, vous voyez ce qu'est une église. C'est des gens puissants, c'est des gens unis, c'est des gens qui manifestent l'amour, c'est des gens qui ont des dons, c'est des gens qui ne manquent de rien, c'est des gens qui faisaient des miracles. Ils étaient persécutés à cause de la vérité. Mais ils étaient toujours plus que vainqueurs. Aujourd'hui, la plupart des églises ne sont pas persécutées. Sinon, persécutées par eux-mêmes. Ils ne sont pas persécutés pourquoi? Parce qu'ils ne font rien pour qu'on les persécute. Jésus a dit quoi? Comme les gens ne m'ont pas aimé, ils ne vous aimeront pas. Si vous faites ma volonté, le monde ne vous aimera pas. Parce que le monde ne m'a pas aimé. Si tu es un chrétien, et que tout le monde t'aime. Tu es un chrétien. Personne ne te fuit jamais. Tu es un chrétien. Personne ne se moque jamais de toi. C'est que tu n'es pas un chrétien. C'est que tu ne fais rien de Jésus. Tu es un lâche, tu es un peureux. Tu ne peux pas être chrétien. Et on ne va pas te persécuter. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, tu vas avoir ton papa et ta maman. Tu ne veux pas dire de nouveau. Ils vont te persécuter. Tes frères vont se moquer de toi. Tes amis vont se moquer de toi. Vont se moquer de toi. Si on ne s'est jamais moqué de toi, tu n'es jamais devenu chrétien. Arrête de te mentir. Tu ne peux pas être quelque part où tout le monde travaille avec le diable et toi tu commences à travailler avec Dieu et les gens t'aiment. Tu mords. La persécution est une caractéristique du chrétien. Jésus dit que il n'est pas venu pour apporter la paix. Il a le point de paix, mais il dit je vous donne la paix. Pas comme le donne le monde. La paix du monde est une paix hypocrite. Est une fausse paix. C'est la paix qui crée la guerre. C'est la paix de l'ONU là. Ouais, l'ONU là, il parle tout le temps de paix. Et c'est toujours qui gère la guerre. Et c'est de la guerre qu'ils vivent. En parlant de paix. C'est eux qui fabriquent la guerre. Tout en parlant de paix. Quelle est cette fausse paix là? C'est la paix qu'on avait les homosexuels. C'est la paix qu'on avait la transsexualité. C'est la paix de l'hypocrisie. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, je ne dis rien. On voit le mal de peur d'être persécuté, de peur que les gens ne vous aiment pas. On fait comme ça, on l'a pas vu. C'est la peur de l'hypocrisie. C'est la peur qui fait que dans le couple, quand ton conjoint t'a offensé, tu fais comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur de toi, tu es fâché, tu es furieux, tu brûles. Ça, c'est pas de la paix. C'est de l'hypocrisie. Jésus dit que quand quelqu'un te fait du mal, quand quelqu'un a péché, tu dois l'approcher et le lui dire avec amour. Parce que si tu le fais avec amour, il pourra se repentir. Et s'il se repent, il pourra changer de vie. Tu l'auras déjà gagné. Le Saint-Esprit nous dit que on ne doit jamais dormir sur la colère. Nous devons parler aux gens quand nous ne sommes pas d'accord avec eux. Nous devons nous entendre avec nos frères. La vraie paix vient après avoir confronté le mal. La vraie paix, c'est quand ce qui est faux est confronté à la vérité. Et le mensonge va être détruit. Le mal va être détruit. Quand le mal est détruit, s'installe maintenant la vérité. Et la vérité donne la paix. Mais l'hypocrisie du monde, c'est de fuir le mal. De faire semblant de ne pas voir le mal. Pour ne pas être persécuté par le mal. Mais quand tu fuis le mal ne te persécute pas. Mais le mal te détruit. Le mal détruit la société. Le mal détruit le monde. Quand dans le couple, tu fêtes les problèmes, tu entends ces problèmes, tu enterres les problèmes. Sur le coup, tu as la paix. Mais ça reste ça pourri. Ça devient de plus en plus grave. Ça devient de plus en plus compliqué. Et un jour, ça explose. Et tout le couple vole en éclats. On ne peut plus rien réparer. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est de confronter les choses. Nous ne sommes pas d'accord. Mais pourquoi nous ne sommes pas d'accord? Parce qu'il y a ça. Parce qu'il y a ci. On se parle, on se comprend. On se demande, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit qu'on doit faire dans ce cas-là? Et on le fait. Quand on a fait ce que Dieu a dit, chacun de nous a la paix. Chacun de nous est rassuré. C'est durable. nous pouvons continuer à vivre. C'est ça la vraie paix. Elle s'obtient après avoir confronté le mensonge. Mais le monde est hypocrite. Mais le monde est hypocrite. Il fait semblant de ne pas avoir les problèmes. Et les problèmes deviennent la règle. Regardez ce monde-là. Tout va mal. Et on fait comme si on n'a rien vu. Quand le mal arrive, on fait comme si c'est normal. On l'accepte. Parce qu'on ne veut pas d'histoire. Tu vois quelqu'un qui se dépigmente. Tu fais comme si tu n'as pas vu. Parce que si tu lui dis, il va se fâcher. S'il se fâche, il ne t'aimera plus. S'il ne t'aime plus, tu n'es pas à l'aise. Je préfère te dire la vérité que tu ne m'aimes pas. L'amour dit la vérité. Si tu vois ton enfant en train de faire quelque chose qui va le tuer et tu ne lui dis rien, tu es méchant. Ce n'est pas ça l'amour. Tu dois dire la vérité aux gens avec amour. Quand nous péchons, le Saint-Esprit immédiatement, qu'est-ce qu'il fait? N'oubliez pas, nous devons être des imitateurs de Jésus. On doit se comporter comme Jésus. Quand toi tu fais un péché, immédiatement, le Saint-Esprit, avec amour, avec douceur, mais fermement, te convainc de péché. Je dis, là tu as péché. Pas pour dire je vais te tuer. Pas pour dire que tu es méchant. Tu dis, reviens sur le droit chemin. Si nous sommes des imitateurs de Jésus, nous devons travailler comme le Saint-Esprit. Quand quelqu'un s'éloigne de la vérité, nous devons lui dire avec amour, reviens à la vérité. Si nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas des chrétiens. Nous sommes des hypocrite. On dit qu'on cherche la paix. Mais ça, ce n'est pas de la paix. Ça, Jésus dit, je ne vous donne pas la paix comme le donne le monde. Il vous donne la vraie paix. Mais pour cette vraie paix, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix comme le monde. Je suis venu apporter la guerre. Je suis venu pour que les parents affrontent leurs enfants. Les maris et les femmes. Ça ne veut pas dire qu'il veut que les gens se détruisent. Mais il sait que quand il prend quelqu'un, quand il fait naître de nouveau quelqu'un, les autres vont forcément l'attaquer. Mais ils ne peuvent pas le vaincre. S'ils nous attaquent par un chemin, ils fuiront par cette chemin. Toute âme forgée contre nous sera toujours vaine. Mais nous ne combattons pas avec les armes de la chair. Nous combattons avec l'âme la plus puissante, l'âme de l'amour. C'est pour ça qu'elle nous dit que quand on nous persécute, de prier pour nos persécuteurs, quand on nous condamne, de bénir ceux qui nous condamnent, cette puissance-là détruit le mal. Quand tu pardonnes et tu réponds avec amour, tu détruis le mal. Nous sommes des combattants, nous sommes des soldats. C'est pour ça qu'on appelle Dieu l'Éternel, le Dieu de l'armée. Mais il y a des chrétiens qui veulent vivre hors de l'armée. Ils veulent vivre hors du combat. Ils veulent vivre une vie de facilité. Ils ne sont jamais confrontés à rien. Ils ne peuvent pas évangéliser. Ils ont peur qu'on se moque d'eux. On parle de Jésus quelque part. Ils se la ferment comme s'il n'était pas là. Le monde est en train de déraper. Ils ne peuvent pas parler. Ils ont peur d'être chrétiens. C'est ça qui empêche les chrétiens d'évangéliser. La peur d'être contesté. Les gens sont chrétiens quelque part. Pendant 10 ans, leurs voisins ne savent pas. Pourquoi leurs voisins ne savent pas? Ils ont peur de montrer qu'ils sont chrétiens. Ils sont ténèbres au lieu d'être lumière pour le monde. Ils n'ont pas de goût alors qu'ils sont le sel du monde. On ne peut pas être une lumière qui n'éclaire pas. On ne peut pas être un sel qui n'a pas de saveur. Être chrétien, c'est sortir du monde. C'est accepter que le monde ne nous aime pas, mais en continuant d'aimer le monde, afin de sauver le monde. Quand quelqu'un est sauvé dans le monde, il comprendra. À ce moment, il vous aimera. Mais en attendant qu'il comprenne, il faudra accepter qu'il ne vous aime pas, mais que vous vous l'aimiez. C'est pour ça que Dieu nous dit que si nous perdons quelque chose à cause de lui, il nous le donnera au centuple, avec des persécutions. Les chrétiens oublient ce petit bout de phrase en plus. Avec des persécutions. Quand tu es né de nouveau, peut-être que tes trois frères vont commencer à te combattre. Mais en même temps, Dieu te donne des centaines de frères à l'église. Quand tu es né de nouveau, peut-être que ton papa te combat. Mais Dieu te donne plein de pères spirituels, plein d'aînés dans la foi qui t'aident. Tout ce que tu peux à cause de Jésus, tu l'auras. Tu l'auras au centuple. Mais ça vient avec des persécutions. Mais les persécutions ne sont pas graves en soi. La persécution n'est pas un problème. C'est notre réaction à la persécution qui est un problème. Écoutez-moi bien. Et certains d'entre vous en particulier qui souffrent particulièrement de persécution. Paul dit que nous sommes battus, nous sommes affligés, nous sommes jugés, mais jamais vaincus. Donc, nous avons des problèmes. Nous sommes persécutés. On nous attaque, on fait toutes choses. Nous ne sommes pas vaincus. Mais regardez Paul. Regardez tout ce qu'il a subi. Ça ne l'a jamais arrêté. On n'a même pas l'impression que ça a changé sa trajectoire. C'est à quoi que plus on le persécutait, plus il était fort. Mais il y a un secret derrière le comportement d'un vrai disciple. L'Apocalypse nous dit ceci. Ils ont vaincu Satan. J'aime beaucoup ça. Parce que c'est ça le but du chrétien. Vaincre Satan. Ils ont vaincu Satan par le sang de l'agneau. Nous allons prendre le sang de l'agneau tout à l'heure. À la croix, nous avons joui du sang de l'agneau. Et nous sommes tous les jours sous le sang de l'agneau. Ça, c'est garanti. Ensuite, par le témoignage à la parole. On aurait pu dire par la pratique de la parole. Parler de la parole aux autres, mais vivre la parole. Jésus a dit que le Saint-Esprit est sur nous pour que nous soyons sept témoins à Jérusalem et dans le monde. Quand on te voit là, est-ce que tu as un témoignage de Jésus? Quand on te voit, est-ce que tu as la preuve que Jésus est vivant? Quand on te voit, est-ce que tu as la preuve que l'amour est plus fort que la haine? Est-ce que quand on te voit, est-ce que tu as la preuve qu'on peut toujours pardonner? Quand on te voit, est-ce que tu as la preuve que la parole a de l'effet? Quand on te voit, on doit voir en toi la parole. La parole s'est fait tuer en Jésus. Jésus a démontré la parole. Et de toi aussi, va et sois mon témoin. Est-ce qu'en te regardant, tu démontres la parole? Quand on te voit et après on lit la Bible, on te dit, ah, je comprends pourquoi ce frère-là comme ça. Il est la parole. Il est la mise en œuvre de la parole. Beaucoup de gens ne croient plus à la parole. Beaucoup de chrétiens, même parfois des pasteurs, ne croient plus à la parole. Mais pourquoi? Parce que les chrétiens témoignent si peu de la parole que les gens finissent par croire que la parole n'est pas vraie. Si les chrétiens manifestaient la parole, tout le monde croirait la parole. Mais comme les prêtres, les pasteurs, les évêques, les cardinaux, le pape, tout le monde n'obéit pas à la parole, et que l'un vient le contraire de la parole, tout le monde se dit que c'est certainement la parole qui a tort. Donc, Jésus nous dit que le Saint-Esprit est venu sur nous pour que nous soyons des témoins de la parole. Notre vie doit prouver tous les jours la parole. C'est ça la finalité du chrétien. La Bible nous dit que nous devons grandir, que Christ doit se former de plus en plus en nous. C'est-à-dire qu'on doit nous regarder, on doit voir de plus en plus que nous sommes la photocopie de Christ. Vous savez comment les orfèvres font pour sortir de l'or? Quand on prend l'or brut, c'est comme un caillou, c'est comme un caillou, c'est noir, c'est vilain. Si tu ne t'y connais pas, tu vas croire que c'est un caillou de tassa ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que l'orfèvre fait? Il le prend et il le met dans le feu. Il chauffe, il chauffe, il chauffe. À force de chauffer, cette pépite d'or la fond complètement de
vie.
Si ça n'a pas bien fondu, on ne peut pas le travailler. Mais il faut que ça chauffe bien pour être complètement liquéfié. Quand c'est complètement liquéfié, les impuretés, les déchets noirs qu'on sort remontent à la surface et on peut les enlever. Tandis que l'or brut lui-même, ce qui est le vrai, on la reste en bas. Donc pour avoir l'or pur, les 18 carats qu'on sort, il faut avoir chauffé tellement le brut de l'or que on arrive à facilement éliminer de ça tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui est déchet.
Et
quand on a l'impression qu'on a réussi, qu'est-ce que l'on fait Il laisse refroidir un peu. Et il prend le lingot d'or là. Et il le regarde. Il se met dedans. S'il n'arrive pas à se voir dedans, si l'or n'est pas tellement pur qu'il peut être un reflet comme un miroir, il dit ce n'est pas encore de l'or pur. Il remet au feu encore. Et il rechauffe encore. Pour enlever encore les impuretés. Mais quand il prend l'or comme ça, il regarde. Et il se voit dedans comme dans un miroir. Et que l'homme maintenant atteint son niveau de pureté maximum. C'est ce que le Seigneur va faire avec les chrétiens. Nous sommes, quand nous naissons de nouveau, une pépite d'or. Nous avons en nous de l'or. Nous avons en nous la divinité. Nous avons en nous la puissance et la vie de Dieu. Mais nous avons aussi les séquelles du monde. Quand nous sommes sortis du monde, le monde n'est pas sorti de nous. Quand tu sors du monde là, le monde n'est pas encore sorti de toi. Tout au long de ta vie chrétienne, après être sorti du monde, le Saint-Esprit doit sortir le monde de toi. La manière de penser du monde doit sortir de toi. La manière de parler du monde doit sortir de toi. La manière de vivre et de réagir du monde doit sortir de toi. Comme on doit sortir les déchets de l'or pur. Mais on ne peut pas laisser l'or pur dû comme faire sortir les déchets. On va donc mettre le feu. On doit le soumettre à l'épreuve du feu. C'est là où c'est souvent dans ta vie, c'est ce qui va permettre que le feu vienne. La pression, les problèmes vont venir. Quand les problèmes sont là, quand les épreuves sont là, tu es comme l'or, tu fonds. Sous la contrainte des problèmes, on est beaucoup plus manipulable. À ce moment, le Saint-Esprit, sous la contrainte des épreuves, des difficultés, peut facilement extraire de toi les mauvaises choses qu'il y a dans ta vie, dans ton caractère. Au moment où il est en train d'enlever ça, de temps en temps, il va éteindre le feu. Et il va te prendre pour regarder si on voit vraiment Christ en toi. Est-ce que quand on te regarde, tu es un parfait reflet de Christ? Si on voit un peu Christ en toi, mais on voit aussi un peu le diable en toi, il va te reprendre, il va te remettre encore dans le feu. Et il va chauffer, chauffer, chauffer. Enlever les déchets qu'il vient de voir. Et puis quand il enlève ses déchets, il éteint le feu. Il te pointe, il regarde. Il dit, bon, celui-là, bon, c'est vrai qu'il a l'amour de Christ, mais il parle encore comme les gens du monde. On va le mettre en feu. Il parle encore comme les gens du monde. Il incite encore les gens comme dans le monde. Il se moque encore des gens comme dans le monde. Bon, ça, là, c'est pas de Jésus. Comment on doit répondre à toute parole vaine? Je le prends, je le mets encore un peu dans le feu. Il va encore chauffer, chauffer. Et là, il va permettre que les moqueries que tu fais commencent à te créer de graves problèmes. Et donc, il va te mettre des feux pour extraire ça de toi. C'est comme ça qu'on travaille l'or. C'est comme ça que le Seigneur travaille les chrétiens. C'est pour ça que la Bible nous dit que l'épreuve de notre foi va nous faire grandir en Christ. Et Jacques nous dit que nous devons nous réjouir des épreuves. C'est comme si on dit, alors, réjouis-toi de passer au feu. C'est ça qui va faire que tu vas sortir comme un grand lingot d'or. Donc, plus tu vas ressembler à Jésus, moins le Saint-Esprit aura besoin de te passer dans le feu. La Bible dit que Jésus veut revenir chercher une église pure, sans tache et sans ride. Pur, ça veut dire que tout ce qui est du monde doit sortir. L'église est déjà sortie du monde, mais le monde doit sortir de l'église. Sans tache, ça veut dire que tout ce que le monde a utilisé pour tacher l'église, et on voit encore des traces du monde, et une église sans rite, c'est-à-dire que tu n'as pas commencé à vieillir et puis ta peau a commencé à plisser. Donc ta foi ne doit pas non plus vieillir et perdre, comme Jésus l'a dit, pour l'église de l'Odyssée, je crois, le premier amour.
Agoué madame mamie, On ne
peut pas extraire le jus de citron sans triturer, torturer un peu le citron. Plus tu veux beaucoup de citron, de jus de citron, plus tu dois triturer le citron. Pour sortir la vie glorieuse de toi, pour sortir la bénédiction de toi, le Saint-Esprit doit te triturer un peu. N'ayez pas peur. Que vous le voyez ou non, dans tous les cas, ça va se passer. Mais il vaut mieux le savoir. Pour que ça arrive, au lieu de pleurer, tu rends grâce à Dieu. Tu dis merci Seigneur. Je comprends ce que tu es en train de faire. Tout concourt vraiment mon bien. Mais donne-moi la foi. Donne-moi de ne pas me décourager. Donne-moi de tenir bon. Quand une femme est enceinte là, il vaut mieux l'informer de comment ça se passe. Dans tous les cas, elle va souffrir. Il vaut mieux la prévenir. Mais dès que tu es tombé enceinte, il n'y a plus rien à faire pour échapper à la douleur. À moins de vouloir mourir avec l'enfant. Mais là, en Jésus-Christ, vous êtes engendré par une semence incorruptible.
Mais
vous êtes enceinte de la gloire de Dieu. Vous êtes enceinte de la vie de Dieu. Et c'est là où Paul parle des douleurs de l'enfantement. Le processus pour faire naître la gloire de Dieu dans votre vie est comme une grossesse. Ça va donner des nausées, des vertiges, des malaises. Et plus on s'approche de l'accouchement, plus ça fait mal. L'accouchement lui-même est très douloureux. Mais dès que tu as accouché, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux que tu oublies tout ça. Le jeu en valait la chandelle. C'est pareil pour ta foi. Tu passeras par des épreuves. Jésus dit, vous aurez des tribulations. Mais c'est une promesse. Les serviteurs de Dieu, je ne sais pas pourquoi ils ont peur d'annoncer aux gens la vérité. Le fait de ne pas dire la vérité ne change pas la vérité. C'est pas parce qu'une femme tombe enceinte, tu la blagues, ça va aller, c'est faux, les gens mentent, on ne souffre pas. Ça change quoi? Quand la personne va découvrir la douleur, elle risque de se suicider parce qu'on lui a dit que ça va faire mal. C'est pour ça qu'on dit qu'un homme averti en vaut deux. Être prévenu vous permet de comprendre et de travailler rapidement avec Dieu. Quand le Saint-Esprit veut t'apprendre quelque chose, plus tu traînes à le comprendre, plus tu souffriras. Si tu le comprends vite, tu seras plus délivré. C'est ça l'enjeu de la vie chrétienne. Ça nous plaît, ça ne nous plaît pas. Jésus a dit qu'on devra prendre notre croix chaque jour. Ce n'est pas des problèmes insurmontables. Parce que Dieu dans sa vie a dit, dans sa parole a dit ceci. Il ne donnera à personne un fardeau qui dépasse ce qu'il peut supporter. Dieu nous donnera des épreuves, hein? Mais il ne te donne pas toutes les épreuves à la fois, sinon tu vas mourir. Si Dieu t'envoie une épreuve, c'est qui fait que le pauvre ne peut pas te tuer. Donc, quel que soit ce que vous traversez dans votre vie aujourd'hui, sachez que si Dieu l'a permis, c'est que ça ne peut pas vous tuer. C'est des vaccins que Dieu vous donne. Ça te permet de réagir, de te faire grandir. Dieu sait que tu en sortiras plus grand. C'est pour ça qu'il a permis. Ça va faire un peu mal, mais ça ne peut pas te tuer. Même si tu es dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Même si tu es sur les eaux, ils ne te submergeront pas. Même si on t'attaque, on ne te vaincra pas. S'ils viennent par un chemin, ils feront par ce chemin. Même si tu es dans la gueule des lions, leur bouche sera fermée. C'est ça, c'est-à-dire Dieu est bon, il est équilibré. Les chrétiens sont perdus parce qu'on ne leur parle plus de toute la parole de Dieu. On leur parle seulement de la bénédiction. Ils voient que ce n'est pas tout, n'est pas bénédiction. Non, ils sont déçus. Non, Dieu dit qu'on aura des épreuves. Mais nous ne combattons pas pour gagner. Nous combattons dans la victoire. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? De combattre dans la victoire. Et non pas pour la victoire. C'est comme dans un film. Si tu regardes par exemple un film de Jackie Chan ou bien de Rambo, n'importe quoi. Au début du film, il y a un scénario. Et quand tu vois le héros là, des fois tu vois on a attrapé le héros, on a tiré sur le héros est en difficulté. Mais si tu connais quelqu'un, si tu es quelqu'un qui regarde beaucoup les films, tu verras que dans tous les cas, à la fin du film, c'est le héros qui va gagner. Il n'y a pas de film où le héros meurt. Quoi qu'il en soit dans un film, à la fin, le scénario va dire que le héros gagne. Donc, quand c'est comme ça, même quand on a tué le héros, tu sais qu'on va te dire que finalement, il n'était pas mort, quelqu'un l'a réveillé. Il y a une bombe qui explose. Tu es sûr qu'on va te dire qu'il n'est pas mort. Quel que soit comment ça se passe, la question n'est pas de savoir si le héros va mourir ou pas, c'est de savoir comment il va se
passer.
Le héros d'un film ne combat pas pour la victoire, il combat dans la victoire, on veut juste voir le scénario. Ta vie est un film que Dieu a écrit. Et tu es le héros du film que Dieu a écrit avec ta vie. Donc, quel que soit le détail du scénario, le diable te tire dessus, il t'écrase, il te malmène. Dieu dit que dans tous les cas, comme c'est ton film à toi, à la fin, c'est toi qui vas gagner.
Alléluia. Amondea, nyaouli bohéou. Et voyez, il a dit, 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 il
a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a c'est pas grave, à la fin des fins, c'est lui qui
va gagner. Tout le monde dit les mots, ouais, et non, tic, bon, à tout Steven Sigala. Fait qu'il est. Bah, il y a maintenant, et il y a un roumé. Le bas, et non, il y a un roumé. Non, il y a un roumé. Non, il y a un roumé. Non, il
c'est ça que Dieu dit. Il dit que quel que soit le scénario du film, tu es vainqueur d'avance. On ne veut pas voir si tu as gagné. On sait que tu as gagné. À partir du moment où tu es né de nouveau, c'est fini, tu ne peux que gagner. Admettons même qu'un jour, on arrive à tuer ton corps. Dieu dit, ne t'en fous, il faut t'en foutre de ça. Parce que ce qui compte pour moi, c'est ton esprit.
Mais
regardez bien, notre vie, ce n'est pas notre corps, c'est notre esprit. Dieu n'a pas de corps, mais il n'est pas mort. Christ est venu, il a laissé son corps, il est parti, il n'est pas mort. Les anges n'ont pas de corps, ils vivent. Donc, ce qui fait la vie, ce n'est pas notre corps. Ce qui fait la vie, c'est notre esprit.
Et c'est notre esprit qui existe et qui vivra éternellement. Et quand tu nais de nouveau, tu es sûr de vivre éternellement en Christ. Je vous explique souvent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont comme la glace, l'eau et l'air. L'air, c'est comme l'Esprit de Dieu. L'eau, c'est comme le Saint-Esprit. La glace, c'est comme Jésus-Christ. Mais c'est valable aussi pour nous. Ton corps, c'est comme la glace. Quand tu meurs là, c'est que la glace a fondu. C'est devenu de l'eau. Et l'eau s'est évaporée. La glace n'est pas morte. La glace est devenue de l'air. On ne voit plus l'air. Mais l'air ne meurt pas. L'air est éternel. Un glaçon peut mourir. Mais l'air qui en sort ne meurt jamais. Donc, quand tu meurs sur la terre, je veux dire, quand ton corps meurt, c'est au pire que la glace a fondu pour retourner à l'état gazeux, pour retourner au Père. Donc, celui qui est en Jésus, même le jour où on l'enterre, il est encore victorieux. Et donc, pour vaincre Satan, nous ne devons pas craindre la mort. Si tu as peur de mourir, si tu as peur de souffrir, Satan va jouer avec toi. Mais quand tu sais qui tu es, tu sais que tu ne peux plus mourir, tu sais que tu es plus que vainqueur, que quoi qu'il arrive, la victoire est pour toi. À ce moment, tu vis la vie de Dieu. Et je disais quelque chose à propos des tribulations, à propos des persécutions. Dieu m'a révélé que la persécution ne fait pas mal. Ce qui fait mal, c'est comment nous réagissons à la persécution. La preuve aujourd'hui, moi, il y a des choses que les gens font et les gens ont mal pour moi. Moi, ça ne me dérange même pas jusqu'à m'empêcher de dormir. Et les gens sont surpris de ma réaction. Ah, donc, quand vous allez sur Internet, il y a des milliers de personnes qui m'insultent. Ça ne me dit rien. Pourquoi? Parce que celui qui insulte est mort. Le moi qui pouvait réagir est orgueilleux. Je m'en fous. Le moi est mort. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Ils ont crucifié Christ, il les a pardonnés. C'est quoi je dis qu'il a insulté chez moi? Quel insulte il t'a touché? Au moins les apôtres ont les touchés, on les chicoté, on les flagellait. Est-ce que toi au moins t'as touché? Non, moi je me dis, au moins moi encore, ils n'ont fait que m'insulter, me tendre des pièges, je les ai vaincus. Mais les gens qu'ils ont crucifiés, Jésus qu'ils ont crucifié, qu'est-ce que lui va
dire?
Si quand on t'incite aujourd'hui, tu ne peux pas supporter. Et le jour comme Pierre ou comme Étienne, tu devras mourir en martyr pour Jésus, tu vas faire comment? Tu vas arrêter de croire en Jésus?
Posons-nous
une question pratique. Tu es chrétien. Si un musulman vient maintenant, il dit de dire publiquement que tu renonces à Jésus, que Jésus n'est pas Dieu pour vivre, sinon il te coupe la tête, tu vas faire quoi? Mais c'est ça l'enjeu de la foi. Mais c'est ça la question. Parce que si tu dis que Jésus n'est pas Seigneur, tu meurs, tu vas aller souffrir en enfer pour toujours.
qui a conquis vous?
Tu vas vivre quelques années de plus, hein? Mais quand tu mourras, tu
iras.
Ça, c'est le péché contre le Saint-Esprit. De connaître le Saint-Esprit et de dire qu'il n'existe pas. C'est le péché qui ne sera jamais pardonné. Alors que comme le dit Paul, la mort met un gain. La vie met un gain. Si je vis, c'est un fardeau pour faire la volonté de Dieu. Si je meurs, c'est que je vais me reposer en même temps au paradis dans la gloire de Dieu. Donc à la limite, quand vous me coupez la tête, vous accélérez mon retour dans la gloire. C'est pour ça que quand tu connais vraiment Dieu, on te tue, on te lève vivant, c'est à peu près la même chose. Mais combien de chrétiens sont prêts à dire, coupez-moi la tête, si c'est pour dire que Jésus n'est pas vivant? Tant qu'un chrétien n'a pas répondu sincèrement à cette question-là, il n'est pas chrétien. La condition à laquelle tu demandes à Jésus de te bénir, c'est parce que tu dis, je suis ton mouton, donc occupe-toi de moi. Si je vois un mouton dans la rue, il n'est pas pour moi, je ne m'occupe pas de lui. Il peut être malade, il peut avoir faim, je ne m'occupe pas de lui. Mais le jour où quelqu'un prend ce mouton, vient me le donner, il dit, monsieur Gibi, je te donne ce mouton-là. Je commence à laver ce mouton, à l'habiller, à le nourrir parce que c'est devenu mon mouton.
C'est
quand vous devenez les brebis du Seigneur, esclaves du Seigneur, que le Seigneur commence à pourvoir vos besoins, pas avant. Donc si tu as peur d'être son esclave, si tu as le mouton de quelqu'un, il dit on va te prendre aujourd'hui pour faire la tabaski, tu vas fuir.
Ah,
non, c'est ça le chrétien. Tu dis que tu es esclave de Jésus. Tu dis que tu as donné ta vie à Jésus. On dit à cause de Jésus, donc donne ta vie vraiment. Tu dis, assis dans ça, je ne connais plus Jésus. Vous ne pouvez pas voir Dieu agir dans votre vie si vous n'êtes pas à Dieu. Et attention, ce que les gens oublient, c'est quoi? Ce que les hommes oublient, c'est quoi? Regardez de plus en plus dans le monde. Regardez au Kenya et ailleurs. Si toi, tu n'es pas prêt à mourir pour Jésus, le moment viendra où sans te demander ton avion, tu tueras pour Jésus. Quand ils étaient dans l'université kenyane, ils n'ont même pas demandé qui est sincère chrétien, qui n'est pas sincère chrétien. Tu t'appelles Pierre, tu t'appelles Jacques, tu t'appelles Paul, tu t'appelles René. On sait que tu es chrétien, on te coupe la tête, on
continue.
Si l'église n'assume pas sa foi pour affronter le mal, pour commander au mal, pour faire un Dieu, on va venir vous chercher comme des poulets et on va vous tuer.
Nous devons dire Agun, amasiti de bon to gan la menu bi de gleun. Lo bro pe si so me. Bo na ipan ku na ze nugbo ze so ta nu vu o. Bo na ze nugbo o, ze la won da bi ona. Bo ze nugbo bo de nugbo o kre aye ho. Ye na wa, mo na ru esu.
Si vous n'attaquez pas le mal vous attaquera.
Ni da amasiti de bo to awon, nu ni la kan, nu ni la kan ato awon.
Si dans un match de football, tu décides de ne pas attaquer le camp de l'ennemi et de te concentrer pour défendre ton camp. Tu prends toujours un but avant la fin du match. Personne ne peut faire un match en ayant pour seule stratégie la défense. On dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et l'équipe ne peut pas dire, moi je ne vais jamais rien faire dans le monde, j'attends simplement chez moi. Satan va finir par gagner parce qu'il passe tout le match à
t'attaquer.
Mais si toi tu attaques le diable, tu délivres les gens, tu guéris les malades, tu ouvres les yeux aux gens, tu formes des gens, tu équipes des chrétiens, tu es en train de libérer de la puissance. Satan va déjà d'abord s'occuper à se défendre. Il n'aura pas beaucoup de temps pour t'attaquer. Donc même si un jour tu devais mourir, l'équipe de Dieu est plus que vainqueur parce que tu as déjà fabriqué tellement de guerriers, lâché de bombes, lâché des armes, créé des miracles. Même si toi tu pars, ce que tu as produit contre le diable là est déjà plus grand que toi-même. Donc la guerre continue et le diable ne sera plus reculé. C'est ça l'enjeu du royaume de Dieu. Mais écoutez, ils ont crucifié Jésus. C'est maintenant que leur problème a commencé, là pour nous sommes là aujourd'hui. Ils ont tué Paul. Mais regardez tout ce que Paul fait jusqu'aujourd'hui à travers ses écrits. Ils ont tué Pierre. Mais regardez à travers chacun de nous les œuvres de Pierre. Ils ont fait fuir les Luther et consorts. Mais pareil, aujourd'hui, il y a le protestantisme qui réaffirme la vérité. Donc, quel que soit ce qui arrive à ton corps, tu dois vivre de telle sorte que ta vie soit une victoire pour Dieu. Tant et aussi longtemps que tu as peur de mourir, tu ne peux pas vivre avec Dieu. C'est pour ça que Jésus dit que si quelqu'un veut protéger sa vie, il la perdra. Mais si quelqu'un est prêt à donner sa vie à Dieu, il la gagnera. Et cela s'illustre dans la Bible aussi par une autre histoire qu'on ne fait pas souvent le lien avec dans l'Ancien Testament, avec Salomon. Quand Salomon est devenu roi, il y a eu un cas qui a permis au monde entier de savoir que Salomon était un roi très sage. Deux femmes avaient eu des enfants, deux bébés. La nuit, l'une d'entre elles dormait tellement elle est insouciante et irresponsable qu'elle a étouffé son enfant et l'enfant est mort.
Et l'enfant est mort.
Le matin, on voulait savoir, puisque je ne sais pas si les deux femmes dormaient ensemble et les bébés se ressemblaient, on ne savait plus le bébé de qui est vivant, le bébé de qui est mort. Et les deux femmes disaient chacune que l'enfant qui est vivant, c'est son enfant. On est parti voir le roi Salomon pour demander de trancher entre les deux femmes de qui c'est l'enfant. Comment Salomon a tranché? Il dit, donnez-moi l'enfant qui est vivant. Apportez-moi un couteau. Je vais diviser l'enfant en deux. Chacune des femmes aura la moitié de l'enfant. Immédiatement, une des femmes dit, oui, c'est la meilleure solution. Il faut découper l'enfant en deux. Moi, je prends ma
part.
La deuxième femme dit non. Si l'enfant doit mourir, je préfère lui donner l'enfant. Salomon dit que c'est la femme qui a dit que si l'enfant doit mourir, il vaut mieux le lui donner, qui est la mère de l'enfant. Parce que celui qui dit de tuer l'enfant, si c'était vraiment son enfant, il ne serait jamais prêt à ce qu'on le découpe en deux juste pour avoir la moitié. Mais celle qui a vraiment son enfant, qui aime son enfant, dit, je préfère qu'il vive encore chez mon ennemi que de le voir mort. Mais au-delà de cette histoire, ça nous révèle quoi? Celle qui a été prête à donner son enfant à l'autre, c'est elle qui a finalement conservé l'enfant. Celle qui n'a pas été prête à donner l'enfant à l'autre,
elle a perdu l'enfant.
De même, si tu as peur de donner ta vie à Dieu, tu ne mérites pas la vie.
Mais si tu aimes vraiment ta vie, tu vas préférer la donner à Dieu que la garder et qu'elle soit découpée par Satan. Quand tu ne veux pas donner ta vie à Dieu, c'est que tu es comme la femme là qui dit, je préfère que le diable découpe ma vie ici sur terre que de devoir la remettre à Dieu. Mais si tu aimes vraiment ta vie, tu vas dire franchement, entre laisser ma vie découpée par le diable ici, elle a donné à Dieu, Dieu prend. Il faut que ma vie vive sur toi et de mourir sur la terre. Pour vivre avec Dieu, il ne faut pas aimer sa vie jusqu'à craindre la mort. Et je terminais en disant ceci. La persécution ne fait pas mal si tu es un vrai chrétien. Regardez, si je prends ma main ici, je ne suis pas blessé. Et je verse de l'alcool là. Ça me rafraîchit, c'est même agréable. N'est-ce pas? Mais si on verse de l'alcool là, et je commence à hurler de douleur, ce n'est pas la faute de l'alcool. C'est parce que j'étais déjà blessé. Quand on te loigne et tu cries, on t'insulte et tu cries, on se moque de toi et tu brûles. La vérité, c'est que tu es blessé à l'intérieur. Tu as un cœur malade. Tu es sclérosé. Il y a quelque chose qui est blessé en toi, c'est pour ça que tu cries. Si ton cœur est normal, la persécution ne te fera pas crier. C'est pour ça que Jésus dit qu'il est venu pour ceux qui ont le cœur blessé. C'est parce que ton cœur est blessé que quand on met l'alcool, la persécution de Jésus, tu cries. Quand quelqu'un est en paix avec Dieu, connaît Dieu, son cœur n'a pas de blessure, donc aucune persécution ne le fait crier. Il faut donc, quand la persécution te fait crier, laisser la persécution tranquille comme on laisse l'alcool tranquille et demander à Dieu de guérir ton cœur. Et toi, mais tu vas voir dans ta vie qu'au fur et à mesure que tu obéis à Dieu, que tu grandis avec Dieu, les perfections qui t'énervent ne t'énervent plus parce que ton cœur est en train de guérir. Retenez donc que la douleur ne vient pas de la persécution. Elle vient de votre cœur blessé. Remettez votre cœur au Saint-Esprit. Profitez de cette Pentecôte pour lui demander de venir en vous. De guérir votre cœur. De penser votre cœur. De répandre son amour dans votre cœur. Et vous verrez qu'à mesure que cet amour rentre dans votre cœur, l'alcool qui vous faisait crier vous fera sourire. Que Dieu vous bénisse.
Nul ne sait ni le jour, mais le maître.
Vous venez de suivre Lève-toi et prie, un enseignement du Centre Jésus pour réussir, 6 à Kounou, au bord des pavés, derrière le stade de l'Amitié, à côté du complexe Félix Houphouët-Boigny. Diffusé tous les jeudis à partir de 22h30 et tous les dimanches à partir de 8h00. Vous pouvez aussi obtenir copie de cette émission au www.jesuspourreussir.org ou nous appeler au 229-61-44-44-44. Vous êtes bienvenus à nos séminaires interactifs tous les mercredis et jeudis de 19h à 21h. Nos cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de la parole de Dieu. La meilleure arme offensive et défensive que Dieu nous ait donnée ont lieu les dimanches de 9h à 12h le matin et de 18h à 21h les soirs. Ils transformeront rapidement votre vie si vous vous donnez la peine de les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse.